Lesquels matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors que l'UNEDIC anticipe la destruction de 900 000 emplois cette année en France, pour éviter encore plus de licenciements, le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée est dévoilé aujourd'hui par Emmanuel Macron aux partenaires sociaux. Un accord collectif permettra de réduire l'activité des salariés avec une prise en charge de l'État. En échange, les entreprises s'engageront à ne pas licencier.
L'exécutif, de nouveau accusé d'attenter à la séparation des pouvoirs après des soupçons de pression dans l'affaire Fillon, cette fois c'est une note révélé par Mediapart qui jette le trouble.
Une note d'Emmanuel Macron dédouanant son bras droit Alexis Kohler alors qu'il était visé en 2019 par une enquête pour prise illégale d'intérêt. L'Afrique du Sud lance le premier essai clinique d'un vaccin contre le coronavirus organisé sur le continent. Un vaccin développé par l'université d'Oxford et déjà testé au Royaume-Uni.
Et puis la question du jour, Catherine, vous vous souvenez que vous allez voter dimanche, enfin si votre maire n'a pas été élu au premier tour municipal, sur quels critères les Français vont-ils se prononcer? On posera la question à Bruno Jambard, il est directeur général adjoint de l'Institut OpinionWay.
Les syndicats ont d'ores et déjà tracé une ligne rouge. Pas question de voir baisser l'indemnité versée aux salariés par l'État et l'UNEDIC. Elle se monte à 84% du salaire net depuis le confinement. La question est donc de savoir quel sera le niveau de remboursement accordé par l'État aux entreprises sur l'indemnité complémentaire qu'elles versent aux salariés. Si cela descend trop, les entreprises risquent de licencier. Emmanuel Macron rendra ses premiers arbitrages sur le nouveau dispositif de chômage partiel cet après-midi. Les partenaires sociaux ont de nouveaux rendez-vous à l'Élysée, Catherine Pétillon.
Sous des aspects et modalités volontiers techniques, les caractéristiques des futurs dispositifs de chômage partiel reposeront sur des options économiques déterminantes pour l'avenir de tous. Ces choix transparaîtront à travers trois principaux points. Le niveau d'aide publique accordée aux entreprises, les obligations et contreparties demandées et enfin la part de cotisations sociales qui seront payées. Le dispositif a permis d'éviter des licenciements, mais cela a un coût. À l'avenir, jusqu'à quel point les finances publiques devront-elles soutenir les entreprises? Rappelons aussi que depuis le confinement, un tiers des aides est payé par l'UNEDIC, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. En trois mois, cela représente 11 milliards d'euros sortis de ses caisses et autant d'argent en moins disponible pour l'indemnisation des chômeurs. Alors bien sûr, le dispositif cherche justement à éviter de nouvelles suppressions d'emplois. Mais pour que cela reste attractif pour les entreprises, il faut qu'elles y trouvent un intérêt financier. La plupart des syndicats préféreraient que cela passe par une aide forte de l'État plutôt que par une baisse des cotisations sociales, car c'est sur elles que reposent nos systèmes de solidarité, la sécurité sociale, les retraites ou encore l'assurance chômage. Enfin, quelle contrepartie pour les entreprises? Actuellement, il n'y en a pas. C'est le futur chômage partiel longue durée qui concentre les interrogations. Sa mise en œuvre devrait reposer sur un accord d'entreprise chargé de préciser la durée, les activités et salariés concernés, ainsi que les engagements pris en matière de maintien dans l'emploi. Ce dernier point inquiète les syndicats qui souhaitent une interdiction de licencier formulée explicitement.
Et le marché du luxe n'échappe pas à la crise économique provoquée par la pandémie. Le traiteur Fauchon a annoncé hier soir avoir demandé le placement en redressement judiciaire de ses magasins historiques Place de la Madeleine à Paris, laminés par la crise sanitaire et les mouvements sociaux. La CGT et la CFDT ont appelé hier le gouvernement à intervenir auprès de l'équipementier télécom Nokia afin qu'il revienne sur sa décision de supprimer 1233 emplois en France dans sa filiale Alcatel-Lucent, filiale dont les syndicats ont été reçus à Bercy. Merci hier, mais de quelle marge de manœuvre le gouvernement dispose-t-il précisément, Annabelle Grelier ?
L'exécutif manque, il est vrai, de levier de négociation pour faire plier la direction de Nokia. Rappeler que la France est un pays attractif pour les investisseurs et notamment ses concurrents n'est pas ce qu'on pourrait appeler un argument massu. Certes, Huawei a annoncé son intention d'ouvrir une usine en France pour 200 millions d'euros. Ericsson va créer 300 emplois de recherche et développement sur le plateau de Saclay. Dans la perspective du déploiement de la 5G, Nokia et ses licenciements feraient pâle figure dans cette compétition. Et chez les opérateurs français, notamment Orange, on pourrait bien y regarder. Garder à deux fois avant de signer de nouveaux contrats. Une image de marque écornée, la mobilisation sociale, tout ça n'est jamais bon pour les affaires, mais est-ce suffisant pour convaincre? Du côté des leviers économiques et financiers, il y a à creuser, dit Bercy. Oui, mais comme le gouvernement veut rester incitatif et que le crédit d'impôt recherche a déjà été largement utilisé, les solutions restent minces. Alors peut-être reste-t-il une piste dont on parle peu, celle de la voie diplomatique. Car Nokia, en rachetant le site d'Alcatel-Lucent de Lannion, a aussi récupéré des contrats militaires avec la France. Et là, on monte d'un cran le niveau des négociations. D'autant que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ancien président de la région Bretagne, maîtrise parfaitement le dossier. Le comité stratégique de la filière infrastructure du numérique est également mobilisé. Et comme le nouveau PDG de Nokia en France n'arrivera pas avant septembre, Bercy espère gagner du temps pour mettre en place sa stratégie. Du côté des syndicats, pour maintenir la pression, une manifestation est prévue début juillet à Paris, devant l'ambassade de Finlande, et fin juillet à Lannion.
Les premières décisions de l'État sur la participation de l'équipementier chinois Huawei au déploiement de la 5G en France sont attendues par les opérateurs SFR et Bouygues Télécom dans les prochains jours. C'est ce qu'indiquent des sources gouvernementales à l'agence France Presse. L'exécutif interpellé sur un autre plan, plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers appellent à une nouvelle journée d'action nationale le 30 juin prochain pour obtenir plus de moyens pour l'hôpital et pour les soignants alors que le Ségur de la santé approche de son terme.
Eh bien, il est déjà 7h05 et c'est la suite du journal de Catherine Dutu sur France Culture. Emmanuel Macron est-il intervenu pour sauver le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, des griffes de la justice?
Mediapart publie une lettre dans laquelle le chef de l'État souligne la probité de son secrétaire général. Cette lettre a été transmise l'été dernier au parquet national financier qui avait ouvert une enquête préliminaire visant Alexis Kohler pour conflit d'intérêts et prise illégale d'intérêts. Quelques semaines plus tard, le PNF prononçait un classement sans suite. L'enquête de Mediapart établit un lien direct entre l'intervention du chef de l'État et la mise hors de cause d'Alexis Kohler. Les explications de Jean-Philippe Degnaud.
Au bout d'un an d'enquête et de perquisition, le dossier des policiers de la brigade financière semblait s'enrichir d'éléments compromettants. En mai 2019, les enquêteurs rédigent un premier rapport accablant, raconte Mediapart. Il concluait qu'Alexis Kohler n'avait rien fait pour éviter les conflits d'intérêts et les prises illégales d'intérêts. C'est alors que plusieurs attestations parviennent aux enquêteurs, dont celle d'Emmanuel Macron, transmise au parquet national financier le lendemain même du départ de sa chef, Éliane Houlet, réputée pour son indépendance, une lettre qui, étrangement, ne sera jamais enregistrée dans le dossier. Et tout va basculer. Le 17 juillet, le rapport définitif de la police financière est totalement réécrit. Désormais, il blanchit Alexis Kohler. Tous les faits gênants, toutes les interrogations ont disparu, écrit Mediapart. Et un mois plus tard, le procureur refermera le dossier avec un classement sans suite. C'est maintenant au parquet national financier que nous n'avons pas pu joindre hier soir d'apporter des explications.
Les propos d'Éliane Houlet, l'ancienne procureure nationale financière, à propos des pressions qu'elle dit avoir subies dans l'enquête sur François Fillon n'en finissent plus de produire des remous après les vives protestations de la droite. Le président de la République a saisi le Conseil supérieur de la magistrature et c'est désormais la défense de l'ex-candidat à la présidentielle qui saisit l'occasion pour demander une réouverture des débats dans le procès qui a été intenté à François Fillon, notamment pour détournement de fonds publics. Le procès s'est terminé juste avant le confinement. Le jugement est attendu lundi prochain. Monsieur le Président, jusqu'où faudra-t-il aller? C'est ainsi que débute une lettre adressée à Emmanuel Macron. Un collectif revendique 1 million de soutiens pour dénoncer les violences racistes et policières. Pour atteindre ce million de voix, le collectif signataire a additionné 16 pétitions. Ce collectif demande au chef de l'État, à l'occasion d'un remaniement gouvernemental, de nommer une personne chargée de recueillir les plaintes pour violences policières. Il demande également d'interdire les techniques d'interpellation qu'il juge dangereuses, comme le plaquage au sol, la clé d'étranglement et le pliage. La statue de Colbert devant l'Assemblée nationale a été en partie recouverte de peinture rouge hier et d'une inscription « négrophobie d'État ». L'auteur de ce tag a été arrêté. Pour sanctionner le choix cynique d'un laboratoire ayant privilégié ses intérêts financiers, le parquet de Paris a requis hier soir plus de 8 millions d'euros d'amende contre le groupe Servier et de la prison ferme contre son ex numéro 2 jugé dans l'affaire du scandale sanitaire du Mediator. On y revient dans le journal de 7h30. Alors que le bilan de l'épidémie de Covid-19 a dépassé les 100 000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes, dont plus de la moitié au Brésil, l'inquiétude dans la Guyane voisine. La question du reconfinement se pose pour ce territoire d'outre-mer. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud, elle, lance cette semaine l'essai clinique d'un vaccin contre la Covid-19, une première sur le continent africain. L'Afrique du Sud a dépassé la barre des 100 000 cas positifs de coronavirus et compte près de 2 000 morts. Selon l'OMS, plus de 200 vaccins sont à l'étude à travers le monde et une dizaine d'essais cliniques sont en cours. L'Afrique du Sud a donc décidé d'apporter sa première pierre à l'édifice, Claire Bargelès.
C'est un vaccin développé par l'université d'Oxford et qui a déjà commencé à être testé sur des êtres humains en Grande-Bretagne. Shabir Madi, professeur à l'université sud-africaine du Witwatersrand, dirige l'essai clinique dans le pays.
L'étude que l'on s'apprête à mener en Afrique du Sud va concerner 2000 personnes et une autre étude au Brésil sera menée auprès de 5000 patients. Chaque essai a pour but d'étudier si le vaccin fonctionne dans ces zones spécifiques.
Particularité de cet essai, il prend aussi en compte les quelques 7 millions de personnes qui vivent avec le VIH en Afrique du Sud.
Après avoir terminé avec les premiers groupes, nous allons conduire une plus petite étude avec des personnes atteintes du VIH pour observer comment elles réagissent au vaccin administré en 2 doses à 2 mois d'intervalle.
Les experts ont aussi tenu à préciser que le continent n'était pas un cobaye, alors que des propos de chercheurs français avaient provoqué la polémique en avril. Pour Hélène Ries, présidente de l'Autorité sud-africaine des produits de santé, le pays est bel et bien volontaire.
Ce sujet a provoqué beaucoup de discussions et d'inquiétudes en Afrique. Mais nous tenons à participer à ces essais. Nous voulons faire partie de cette aventure scientifique.
Si l'étude est un succès, les chercheurs espèrent une mise sur le marché au mieux d'ici un an.
Claire Bargelès en Afrique du Sud pour France Culture. Peu de masques hier aux États-Unis lors du meeting de campagne de Donald Trump dans l'Arizona. Pour être réélu, le président a repris l'un de ses thèmes de prédilection, l'immigration, un thème qui fait mouche auprès des électeurs républicains dans cet état frontalier du Mexique. Donald Trump s'en est également pris à son adversaire, le démocrate Joe Biden, mais aussi à son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama, qui participait hier soir à une levée de fonds virtuelle avec son ancien vice-président Joe Biden. Les deux hommes démocrates réunis par caméra interposée ont recueilli plus de 11 millions de dollars. Barack Obama veut croire à un grand sursaut face à Donald Trump, aussitôt moqué par l'actuel président des États-Unis.
Est-ce que vous imaginez si Joe l'endormi devient un jour président? Ce serait le désordre dans le pays. Et en ce moment, il est avec Obama, président Obama. Combien de temps ça lui a pris? 1 an et demi pour le soutenir? Désormais, il se bat pour Joe l'endormi et il le sent bien, très bien. Mais si vous vous souvenez de ma dernière campagne, il s'est mieux battu qu'Hillary l'escroc. Il disait, vous ne pouvez pas le laisser gagner, vous ne pouvez pas ceci ou cela. Il était partout, ce gars a passé son temps à faire campagne contre moi. Mais qui a gagné? N'oubliez pas, je suis là à cause de lui, à cause de Biden, parce que s'ils avaient fait du bon boulot, nous ne serions pas ici.
We wouldn't have been here.
Donald Trump hier soir aux États-Unis, traduit par notre correspondant Loïc Loury. Le temps de ce mercredi 24 juin, estival sur l'ensemble du pays, avec une forte hausse de la chaleur. Les températures seront comprises au meilleur de la journée, entre 29 et 34 degrés sur la moitié nord du pays, comptés de 31 à 37 au sud.